compte durable.
La santé des sols.
Une série pour comprendre les enjeux autour de la sauvegarde, la sensibilisation et la renaturation des sols.
Bonjour à toutes et à tous. En ville, les fonctions des sols sont diverses. Réguler les inondations, apporter des éléments nutritifs pour les végétaux, dégrader des polluants. Mais tous les sols n'ont pas les mêmes qualités. Comment mieux les connaître? Avec quels indicateurs? Et comment redonner aux sols leur juste place dans les opérations d'aménagement? Nous en parlerons dans quelques minutes avec Laure Vidal-Baudet, enseignante chercheuse à l'Institut Agro Rennes-Angers et professeure d'agronomie urbaine. Elle expliquera comment optimiser l'usage des sols. Mais tout d'abord, illustration concrète avec deux projets menés sur le territoire d'Angers-Loire-Métropole. Une étude exploratoire de l'Agence d'urbanisme de la région Angevine et le projet européen Humus. Un reportage de Marion Bastide de Radio Campus Angers.
Dans l'agglomération d'Angers, 1200 hectares ont été grignotés par l'urbanisation entre 2005 et 2018. Pour freiner cet étalement urbain, il y a deux solutions. D'une part, densifier les villes, c'est-à-dire construire plus dans les zones déjà urbanisées. Et d'autre part, renaturer, c'est-à-dire remettre de la nature en ville. Et pour choisir où est-ce qu'on densifie et où est-ce qu'on renature, l'agence d'urbanisme de la région Angevine a voulu prendre en compte la qualité des sols. Avec un pédologue, un spécialiste des sols, elle est allée scruter leur qualité dans trois communes, dont les Ponts-de-Cé, au sud de l'agglomération d'Angers, où on retrouve l'urbaniste Florence Guiter, qui a dirigé cette étude exploratoire. On la retrouve dans la plaine des sports, où une grande tranchée a été creusée dans la pelouse, à côté d'un terrain de football.
Donc c'est une fosse pédologique pour découvrir les sols urbains. Et donc on a une fosse d'un 5 mètres de long sur 1,50 m de profondeur, et qui nous permet de voir plusieurs horizons de sols urbains. Il faut imaginer en gros les étagères d'un frigo, si on peut schématiser, mais on voit plusieurs horizons avec plusieurs caractéristiques pédochimiques. Et ce qui nous a intéressé par lui particulièrement dans l'étude, c'est la première couche des 20 premiers centimètres. Et cette terre-là, qui est donc une terre végétale, on l'a faite analyser en complément de la fosse pédologique en laboratoire pour en comprendre son fonctionnement, notamment son fonctionnement biologique, pour aller un petit peu plus loin sur des investigations, parce qu'on avait les caractéristiques pédochimiques, c'est ce qu'on voit dans une fosse, et les analyses en laboratoire nous permettent d'aller un peu plus loin sur les composantes biologiques d'un sol, et notamment ce qu'on appelle la santé des sols, est-ce que les sols sont réellement vivants ou pas, et quelle est la qualité de ce sol-là.
L'objectif est de déterminer si le sol est propice ou non à la plantation d'arbres, et il y a plein de critères à étudier pour ça.
Par exemple, la profondeur d'un sol, est-ce qu'on a des racines qui vont être bloquées par des caractéristiques du sol? On va regarder sur ses composantes chimiques sa teneur en carbone, on va regarder son pH, on va regarder les micro-organismes qui sont présents et qui peuvent être plus ou moins bloquants. On va regarder sa capacité de rétention de l'eau et d'infiltration de l'eau. Donc c'est des caractéristiques assez complexes en termes de pédologie. Mais en tout cas, ce qui va nous intéresser, nous, c'est que ces caractéristiques-là, elles permettent la plantation de certains arbres plus que d'autres. Donc c'est le choix des essences. Et plus que le choix des essences, c'est derrière quel enjeu on va pouvoir y associer en termes d'aménagement du territoire, d'un point de vue paysager, d'un point de vue réponse à la surchauffe urbaine, d'un point de vue qualité des espaces publics, etc.
Et pour la plaine des sports, les conclusions de l'étude du sol sont positives.
Qu'on a un sol qui est vivant, qu'on va pouvoir y planter des arbres qui vont pouvoir s'y développer relativement facilement, et qu'il faut être vigilant sur le système racinaire et donc le choix des essences associées, pour qu'on soit plutôt sur une plantation d'arbres qui avec un système racinaire dit pivot, qui va aller s'enfoncer dans le sol et éviter d'être trop horizontaux dans leur développement, qui pourrait gêner à la fois les usages urbains qu'on fait de cet espace-là, à savoir avoir des racines qui nous embêtent pour aller courir sur un stade de foot, concrètement, ou sur un espace récréatif. Donc c'est surtout là-dessus que l'étude de sol nous a permis d'aller un petit peu plus loin et va pouvoir éclairer la commune demain. Et surtout la pratique aussi d'aller un petit peu plus loin sur les analyses, c'est que ça permet d'avoir guidé le chantier. Donc on sait qu'on va pouvoir décompacter le sol, qu'on va éviter des apports de terres végétales qui ont parfois un impact environnemental assez fort. Or là, le sol est de bonne qualité, donc on n'a pas forcément besoin d'apporter de la terre végétale. On va pouvoir utiliser la terre qui est sur place. Dans les grandes conclusions, c'est à peu près ça.
En tout, 480 sondages ont été faits dans les trois communes concernées par cette étude. Elle a duré 2 ans et elle a permis de dresser 7 cartographies des sols, chacune sur un critère, profondeur, capacité d'infiltration, etc.
On a résumé ces 7 cartographies cartographie en une cartographie thématique sur justement la plantation d'arbres en ville, considérant que les arbres en ville répondent aux enjeux climatiques demain en termes de lutte contre la surchauffe urbaine, en termes de présence de biodiversité, en termes de qualité du cadre de vie, etc. Et donc on est allé chercher les sols urbains les plus propices à la plantation d'arbres en ville, et on les a croisés avec des enjeux d'espace à renaturer ou d'espace à densifier. Ici à la Plaine des Sports, c'était un espace qui ressortait comme un espace à renaturer puisqu'il est concerné par l'enjeu du risque inondation. Il y a peu d'arbres au kilomètre carré sur cette partie-là de la ville, or on est sur un quartier qui est relativement dense, donc on doit amener aussi de la nature en ville et de la qualité d'espace public. Et puis il y avait un enjeu particulièrement pour la collectivité d'apporter un cadre de vie aux usagers de cet espace-là, et notamment en période estivale, c'est un espace qui est en réelle surchauffe urbaine.
Cette année, les sols de 9 autres communes vont être scrutés. À terme, l'objectif est d'étendre l'étude à tout le pôle métropolitain. Mieux prendre en compte la qualité agronomique des sols dans les décisions d'urbanisme, c'est aussi l'objectif du projet Humus. Ce projet européen se déploie sur une vingtaine de territoires pilotes, dont l'agglomération d'Angers, en lien avec la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Et c'est grâce à l'étude de la qualité de ces sols que la zone agricole de Saint-James-sur-Loire a pu être protégée de l'urbanisation. C'est là qu'on retrouve Loïc de Barmont, maraîcher, membre du bureau de l'association des producteurs de Saint-James-sur-Loire.
On est ici au Jardin de l'Avenir, on doit être à 4 km, je pense, à vol d'oiseau de la gare d'Angers. On est au sud d'Angers, donc on est vraiment dans l'agglo. L'agglo nous entoure pratiquement, sauf au sud où on a la Loire, mais autrement on est entouré par de l'habitat. Et donc on fait partie de cette zone, ces 550-600 hectares qui résistent entre guillemets à l'urbanisation dans cet agglo angevine.
Si cette zone agricole a pu être préservée, c'est en raison de la qualité de ses sols, explique Jacques Jolin, urbaniste à la Chambre d'agriculture.
Ici on est sur un secteur alluvionnaire, donc on a des sols sableux, sablo-argileux, qui sont très propices aux productions maraîchères, horticoles, pépinières, évidemment pleine terre. Une étude montre que 80% du territoire là, sur les 600-700 hectares sont très propices pour ce type de culture. Donc on est sur, on peut dire, un terroir un peu particulier. Et ce qui méritait qu'on le protège, c'est que justement, le sol n'est pas transférable, n'est pas transposable ailleurs, délocalisable. Donc ces secteurs-là, qui aux portes de la ville avaient été, une pépite, devait être protégé.
Pour Loïc de Barmont, c'est surtout la structure du sol qui joue. Accroupi le long d'une rangée de choux, il prend une petite poignée de terre entre ses mains.
Un sol sableux, vous voyez, vous le frottez comme ça. Quand on le frotte entre ses deux mains et qu'on essaie de rouler, il fait pas de petits boudins. Là. On a vraiment la caractéristique d'un sol sableux. S'il y avait de l'argile, on aurait très vite un petit boudin qui se forme, style pâte à modeler. Je dirais pas que les sols sont particulièrement fertiles, mais je dirais que dans leur structure et leur texture plutôt, c'est des sols particulièrement adaptés, c'est des sols légers dans lesquels on peut facilement intervenir, contrairement à des terres lourdes. Et aussi, des sols sableux, c'est des sols qui se réchauffent très vite au printemps, pour lesquels du coup on a un démarrage de la végétation précoce. Contrairement à des terroirs qui sont juste de l'autre côté de la Maine, on a des sols qui sont complètement différents, plus froids, et qui démarrent beaucoup plus doucement, qui sont beaucoup moins drainants et également plus gélifs. On note souvent des différences importantes. Alors, importantes à notre échelle, c'est 1 degré, 1 degré et demi, 2 degrés par rapport à nos voisins à 10 km, même à 5 km.
Mais cette zone agricole a été menacée par la pression foncière.
Dans les 50 dernières années, il y a eu un grignotage, il y a eu du mitage, c'est-à-dire qu'il y a eu des constructions d'habitations qui, au début, étaient peut-être pour la majorité à la destination des producteurs, des agriculteurs. Mais petit à petit, et au fur et à mesure des reventes, eh bien, ça a échappé au monde agricole. Et du coup, c'est ce qu'on appelle du mitage. C'est que notre surface de production s'est retrouvée avec des habitations de personnes hors cadre agricole dans la zone. Ce qui posait des problèmes. Des surfaces qui, historiquement, étaient en production agricole, bah tiens, c'est devenu un petit pré pour mettre quelques chevaux. Et voilà, c'est le début un peu de la perte de cette vocation agricole. Donc c'est pour ça que cette classification en zone agricole protégée, ça a été super important pour nous et ça nous a surtout donné une vision. On a besoin en agricole de vision à long terme. On est sur des productions où les entreprises s'ancrent sur des dizaines d'années. Donc on a besoin d'être serein sur la suite de la vocation de nos parcelles agricoles.
Depuis 2018, la zone est donc classée zone agricole protégée, explique Jacques Jolin.
Le fait aussi qui a été déclencheur, c'est un projet de contournement sud d'Angers qui traversait et remettait en cause évidemment la zone horticole. Donc cette protection, en fait, c'est un périmètre qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral. Et ce périmètre s'impose aux documents d'urbanisme, il est de portée supérieure. Et donc, à l'intérieur de ce périmètre, aucune urbanisation n'est possible.
Aujourd'hui, seules deux zones agricoles de l'agglo d'Angers bénéficient de cette protection, mais elles pourraient se multiplier grâce au projet Humus.
Donc l'objectif du projet Humus, c'est de prendre en compte davantage la donnée sol, qui, faute souvent de données suffisantes, c'est pas un critère qui est forcément privilégié. Et d'engager un travail justement spécifique d'amélioration de la connaissance, d'une part, et c'était de sensibiliser aussi l'ensemble des acteurs sur ces questions sol, et pas exclusivement sur des questions hydrauliques ou de biodiversité, mais aussi que cette donnée soit parfaitement prise en compte dans les opérations d'aménagement.
Dans le cadre de ce projet, une cinquantaine d'élus et d'agents des communes et agglos de la région ont été formés aux enjeux de qualité des sols, ainsi qu'une cinquantaine de citoyens volontaires de l'agglomération d'Angers.
Voilà pour ce reportage de Marion Bastide de Radio Campus Angers. Et pour prolonger la réflexion, Laure Vidal-Baudet, enseignante-chercheuse à l'Institut Agro Rennes-Angers et professeure d'agronomie urbaine, explique comment optimiser l'usage des sols. Une interview réalisée par Marion Bastide de Radio Campus Angers.
Laure Vidal-Baudet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignante-chercheuse à l'Institut Agro Rennes-Angers, vous êtes professeure en agronomie urbaine. Vous travaillez sur la prise en compte de la qualité des sols dans les opérations d'aménagement. En quoi c'est important de s'intéresser à la qualité des sols ?
Eh bien, la qualité du sol, ça va être sa capacité à remplir certaines fonctions qui sont indispensables pour avoir un sol en bonne santé, c'est-à-dire un sol qui va pouvoir être support de végétation, être support de biodiversité, permettre au cycle de l'eau d'être assuré convenablement. Et par exemple au cycle aussi de stockage du carbone ou des éléments nutritifs qui sont indispensables au développement du végétal. Donc voilà, cette qualité, il est important de la connaître ou de l'évaluer en fonction de l'usage que l'on envisage sur un sol.
En quoi ça peut guider les décisions d'aménagement ?
Alors, pour l'instant, c'est vrai que cette qualité des sols, elle n'est pas forcément le premier élément qui est pris en compte dans un projet d'aménagement. Mettre en place un projet d'aménagement, souvent, c'est une décision politique. Et nous, notre objectif dans le cadre de nos recherches, c'est de faire en sorte que cette qualité des sols, elle puisse guider la décision politique et définir pour un site donné, pour un aménagement donné, quel va être l'usage qui va être le plus adapté finalement à un territoire.
C'est-à-dire qu'on ne décide pas, tiens, on va implanter ça à tel endroit et puis ensuite on voit si, ce qu'on fait avec le sol. C'est qu'on part vraiment de l'existant pour décider ce qu'il est plus pertinent de faire à un endroit ou à un autre.
Voilà, effectivement, c'est ce qui serait le plus logique, c'est-à-dire s'intéresser d'abord à la qualité du sol que l'on a en place. Par exemple, regarder quelle est la profondeur du sol, quelles sont les différentes couches de sol qui sont en place, donc décrire un profil de sol. Et en fonction des propriétés physico-chimiques que l'on va déterminer au niveau du sol, mais aussi peut-être de ses propriétés mécaniques, choisir à quel endroit on va peut-être implanter des petits bâtiments ou mettre plutôt de la voirie ou des infrastructures routières et à quel endroit on va conserver plutôt les sols de bonne qualité pour végétaliser ou pour faire de la production de l'agriculture urbaine. Et ça ne peut être défini que si on connaît bien le sol.
Et quelles sont les caractéristiques du sol qu'on va regarder très concrètement pour déterminer ça ?
Alors, l'idée, c'est d'essayer d'évaluer les fonctions du sol. Donc, le sol, jusqu'à il y a quelques années, finalement, on le considérait comme un support de végétation qui allait jouer un rôle ornemental. Et puis, finalement, c'était En tout cas, pour la végétalisation en ville, c'était les seules caractéristiques qu'on lui reconnaissait finalement à ce sol. Mais ce sol, il joue des fonctions très diverses. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il va permettre d'infiltrer de l'eau, donc réguler les inondations. Il va permettre d'avoir de la biodiversité dans le sol qui va aider à avoir des éléments nutritifs qui seront plus présents pour ensuite le développement des végétaux. Donc pour pouvoir évaluer ces fonctions, il faut aller étudier des indicateurs dans le sol. Et ces indicateurs, ils sont très nombreux. Donc on a des indicateurs sur les propriétés physiques du sol, ses propriétés chimiques, ses propriétés biologiques, ses propriétés mécaniques aussi. Et en fait, ce qu'il faut arriver à faire, c'est peut-être pas à chaque fois avoir une évaluation exhaustive de tous ces indicateurs, parce que c'est très long et que ça peut coûter très cher, mais sélectionner quels sont les indicateurs les plus pertinents pour aider justement à évaluer les fonctions qui nous intéressent dans le cadre d'un projet. Et donc avoir des éléments faciles à utiliser aussi après par les aménageurs et à évaluer.
Est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte aujourd'hui dans les décisions d'urbanisme, la qualité des sols ?
Alors c'est quelque chose qui commence à se mettre en place. C'est vrai qu'il n'y a pas d'obligation de déterminer la qualité des sols. Les seules obligations sont liées à l'évaluation de la pollution des sols. Mais ensuite, la qualité en elle-même du sol, donc à être support de diverses fonctions, n'est pas une obligation. Et donc, notre travail, finalement, c'est d'arriver à sensibiliser les aménageurs et à transmettre des éléments ou des informations pour inciter justement cette prise en compte de la qualité des sols dans les politiques d'aménagement.
Alors aujourd'hui en Europe, il y a 63% des sols qui sont dégradés. Est-ce qu'on peut restaurer la santé de ces sols ? Est-ce qu'on peut l'améliorer au moins ?
Alors déjà, pour pouvoir restaurer cette qualité des sols, il faut l'évaluer. Donc effectivement, il y a un besoin de connaissances approfondies des sols. Et ensuite, si on évalue les fonctions, on sait quels sont les indicateurs qui nous permettent d'évaluer ces fonctions. Donc après, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut travailler à l'amélioration de ces indicateurs pour améliorer les fonctions des sols et donc la qualité des sols. Alors après, certains indicateurs sont liés à des propriétés intrinsèques du sol et ne vont pas être forcément améliorables. Mais ensuite, on peut se poser la question de quels sont les usages que l'on va mettre en place sur les sols en fonction justement de la qualité des sols et peut-être adapter les usages et les besoins à cette qualité et pas faire l'inverse, quoi.
Vous avez des exemples où un projet d'aménagement a été complètement revu une fois qu'on a regardé la qualité des sols ?
Là, il faudrait que je réfléchisse, mais actuellement, il y a un engouement pour la désimperméabilisation des sols, hein, dans le cadre de la loi ZAN, zéro artificialisation nette. Il y a notamment des projets de désimperméabilisation dans les cours d'école. Et toutes les villes ont mis en place un programme de désimperméabilisation. Et c'est une chose qui est très intéressante parce que là, dans le cadre de ces projets, la qualité du sol est prise en compte. Et souvent, dans les cours d'école, on va vouloir mettre des noues pour désimperméabiliser et infiltrer l'eau dans les cours. Et à ce moment-là, il faut regarder à quel endroit il est le plus judicieux de mettre ces noues pour infiltrer l'eau. Et donc, il va falloir s'intéresser à la qualité du sol sur la zone à désimperméabiliser.
Est-ce que vous avez d'autres exemples en la matière ?
Oui, alors actuellement, il y a aussi une idée ou une envie de faire de l'économie circulaire, c'est-à-dire d'utiliser le sol en place dans le cadre de l'aménagement paysager et de ne pas évacuer le sol en place parce que peut-être son pH n'est pas convenable ou sa teneur en matière organique n'est pas convenable. Et l'idée, c'est de dire, regardons, est-ce que si, par exemple, en apportant un peu de matière organique, je vais pouvoir améliorer la qualité de mon sol et à ce moment-là, conserver ce sol en place Et donc là, on est dans un système vertueux où on va limiter les émissions de gaz à effet de serre parce qu'on ne va pas évacuer la terre et qu'on ne va pas ramener une autre terre, par exemple d'une zone agricole, qui ne sera plus disponible pour de l'agriculture et qui en plus est une ressource renouvelable.
Ces dernières années, on a vu fleurir beaucoup d'écoquartiers sur des friches industrielles. Alors souvent, il y a des jardins partagés, il y a des cours d'école, etc. Mais parfois, on se rend compte qu'en fait, le sol de ces cours ou de ces jardins était pollué. Est-ce que c'est lié au fait qu'on n'avait pas assez étudié la qualité des sols avant d'aménager ?
Non, parce que je pense que dans le cadre de l'aménagement des friches industrielles, la détermination du niveau de pollution, elle est obligatoire et que souvent, on a une présomption de pollution des sols. Alors peut-être qu'effectivement, il y a quelques années, il n'y avait pas cette obligation de vérifier la qualité des sols, notamment en termes de contaminants. Mais actuellement, c'est indispensable d'aller vers cette évaluation. Mais effectivement, sur des projets assez anciens, cette contamination, elle est là, elle est avérée. Donc, il faut trouver des solutions pour essayer de continuer à pratiquer de l'agriculture urbaine sur ces espaces. Et donc, les villes mettent en œuvre des actions pour essayer de limiter ces problèmes liés à la pollution des sols et permettre aux habitants de continuer à cultiver sur ces sols.
Merci alors Vidal Baudet. Je rappelle que vous êtes enseignante-chercheuse à l'Institut Agro Rennes-Angers, professeure en agronomie urbaine.
Vous venez d'écouter La santé des sols.
Une collection de reportages produites par la CORLAB, coordination des radios locales et associatives de Bretagne,
et la FRAP, Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
En partenariat avec l'AFES, l'Association française pour l'étude du sol, dans le cadre du projet Ondes Durables.
Ces reportages sont à retrouver en ligne sur ondes-durables.fr.
Ondes Durables est un projet soutenu par l'État
dans le cadre de France 2030 et du dispositif Soutenir les alternatives vertes 2,
opéré par la Banque des Territoires, Caisse des dépôts.